L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandelo, c'est l'heure du journal.
Auditrices, auditeurs, salut et bienvenue pour suivre ce Radio Journal. Le fil de l'information, trois titres. Suite à l'intensification des combats entre la FSAM 23 et les combattants Wazalendo, plusieurs maisons des peuples autochtones pygmées ont déjà été brûlées dans le territoire de Calais. Les villages concernés sont entre Bogamanda, Katasomo, Masiza et Katoki. Les peuples autochtones plaident pour leur sécurité. Et depuis l'isolement de la ville de Bukavu, de la partie sud de la province, la ville de Baraka au sud fait face à une situation humanitaire inquiétante. Les hôpitaux connaissent des difficultés d'approvisionnement en médicaments. Les petits commerçants s'approvisionnent essentiellement au Burundi et en Tanzanie. Les prix de biens sur le marché ont grimpé et la vie devient de plus en plus chère. Le point dans ce radio-journal. Les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP 2025 se dérouleront du mardi 1er au mercredi 2 juillet sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Détail dans ce radio-journal. Voilà tout pour le sommaire. Dans quelques instants, les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedia Kialou.
Commençons par cette information. L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, a entamé ce mercredi au sud Kivu des consultations avec les couches sociales. Après ces mêmes exercices au nord Kivu, Joseph Kabila s'élance sur la même démarche au sud Kivu. Il a reçu ce mercredi des chefs coutumiers venus des différents coins de la province. Des réflexions autour de la paix ont été au centre de leurs échanges, précise une source qui y a participé. Et plusieurs maisons appartenant au peuple autochtone pygmée ont déjà été brûlées dans le territoire de Calais depuis l'intensification des affrontements entre les troupes de la FSAM 23 et les combattants Wazalendo dans cette partie du sud de Kivu. Le dernier cas remonte à dimanche 22 juin dans le village des Bogamanda, Kayeye, Katasomo, Masiza, Katoki, Batanga, Buyoyi et Chibuisa, des villages situés dans le groupement Binga Sud, chefferie de Boavu, aux abords du parc national de Kahuzi-Biega. L'alerte et de Bahati Malenga Majafa, porte-parole des peuples autochtones pygmées dans cette partie de la province du sud Kivu. Il indique qu'à l'occasion de ces différentes attaques, les biens des peuples autochtones pygmées ont été pillés. Ne supportant plus les conditions leur imposées, plusieurs de leurs familles ont été obligées de fuir leur village pour vivre actuellement comme des déplacés. Bahati Malenga plaide pour la sécurité des peuples autochtones en particulier et une assistance en leur faveur car ils traversent une situation difficile. On l'écoute.
Nos maisons ont été incendiées dans plusieurs villages à partir de Bogamanda, Katasomo, Katoki jusqu'à Batanga et à Buissa. Dimanche dernier, d'autres maisons ont été incendiées à Batanga et à Buoi. Nous avons tout perdu. Personne ne peut dire qu'il a encore quelque chose, habits ou même une petite poule. Ils ont tout ravagé. Même ici où nous sommes, c'est l'insécurité, car ils ne sont pas loin. Nous n'avons pas la paix.
Précisons que plusieurs leaders pygmées vivent actuellement dans la clandestinité suite aux accusations dont ils sont victimes dans un contexte sécuritaire fragile. Et au moins 10 personnes habitant des villages du groupement de Karongo Nyangezi en territoire de Walungu ont été arrêtées et détenues par des personnes armées la semaine dernière. La plupart de ces personnes ont été arrêtées après avoir été accusées par d'autres habitants au sujet de différents faits. Les précisions avec Alain Kabika.
Le cas le plus récent est celui des deux hommes habitants du village Moulende qui ont été arrêtés respectivement dans la soirée du samedi 21 et la matinée du dimanche 22 juin 2025, puis amenés vers une destination inconnue. L'une de ces personnes aurait été arrêtée sur base des conflits des limites avec un voisin alors que l'autre a été accusé d'être en connivence avec un groupe armé. Des sources sur place indiquent que l'une de ces personnes a été relâchée l'après-midi du dimanche 22 juin après paiement d'une rançon, alors que pour ce qui est du second, le ravisseur exigerait deux vaches comme rançon pour sa libération. Des défenseurs des droits humains et notables de la place rapportent que ces accusations se sont accentuées ces derniers jours, plongeant plusieurs habitants des Nyangezi dans la peur et une insécurité grandissante. L'un d'eux, Amani Luamba Shadrach, président du Parlement citoyen pour la démocratie et la bonne gouvernance, demande aux habitants des Nyangezi de résoudre leurs problèmes à l'amiable en lieu et place des centres accusés auprès des personnes en armes.
Nous avions interpellé la population à ne pas amener leurs affaires auprès des hommes en armes. Les affaires civiles ne doivent pas être amenées devant les militaires. Les gens doivent apprendre à résoudre leurs problèmes entre eux. Et dans les cas où vous êtes dans une situation qui ne vous permet plus d'attendre, vous pouvez saisir votre chef de localité, chef d'avenir, chef de quartier, pour qu'il puisse jouer une certaine médiation. Mais pour le moment, il n'est pas l'occasion que vous puissiez commencer à vous interacquiser devant les militaires. Kabare, Kalehe, Walungu, Karongo, Kamanyola, s'abstenir de tout acte militaire. Laissons les militaires dans leur affaire. Nous en appelons aussi à ceux-là qui accusent les autres auprès de tel ou tel cas. C'est exposer la vie gratuitement de ton compatriote. Aujourd'hui, les gens sont en train de fuir les villages, de peur des représailles. Et nous demandons à la population de pouvoir chercher à construire la paix et les vivre ensemble. Après la guerre, c'est la paix. Nous demandons à la population de ne pas s'acquiser aux militaires de tous les côtés de pouvoir protéger la vie civile.
Il estime que cette situation devrait cesser car elle met en péril le vivre ensemble et la cohésion sociale qui devrait régner dans la communauté.
Et la situation humanitaire se détériore de plus en plus dans la ville de Baraka et ses environs en territoire de Fizi. En plus de la carence en médicaments dans les hôpitaux, le prix élevé devient sur le marché. Il se remarque que la vie devient de plus en plus chère pour les habitants de ces entités situées dans le sud-sud de la province du Sud Kivu. C'est ce qu'indique Lévis Saïdi, acteur de l'ONU civile et défenseur des droits de l'homme évoluant sur place. Qu'en est-il, Alain Kabika?
Dans un entretien avec Radio Maïndéléo, Lévi Saïdi précise que c'est depuis la chute de la ville de Bukavu et entités voisines, entre éléments de l'AFC 123, que la ville de Baraka est faiblement approvisionnée en denrées nécessaires et autres produits manufacturés. À ce jour, ajoute notre source, les petits commerçants s'approvisionnent à partir de Kigoma en Tanzanie ou encore au Burundi, mais cela comporte des conséquences, notamment les coûts liés au dédouanement. La situation est venue s'empirer avec le débordement des eaux du lac Tanganyika qui a occupé une bonne partie de la route nationale numéro 5 ouverte à Fizi, particulièrement au niveau de Luanga, empêchant ainsi un passage aisé des véhicules et motos. Sur les marchés, ajoute notre source, le prix des biens ont carrément doublé au point qu'une mesure de farine se négocie à 2000 francs congolais au lieu de 1000 francs congolais auparavant, ainsi qu'une poignée de poissons dits sambaza est passée de 2000 à 5000 francs congolais. Dans un contexte où les agents de l'État sont pour la plupart non payés et que les ONG ont sensiblement réduit leurs activités dans la zone, c'est la famine qui s'installe dans plusieurs ménages, ajoute notre source. Des centaines de familles ont choisi d'aller vivre dans des camps de réfugiés en Tanzanie et au Burundi, tandis que d'autres sont allés plus loin dans les villages environnant la ville de Baraka, espérant y trouver de quoi vivre particulièrement grâce à la pêche et à l'agriculture. Autrefois active grâce au passage des véhicules et motos en provenance de Bukavu et Uvira pour Misisi, Nyange ou encore Salamabila dans la province du Maniema, la ville de Baraka présente une image tout autre. C'est à peine que des dizaines d'hôtels et maisons de passage peuvent encore enregistrer ne fût-ce qu'un seul client en une semaine, indique pour sa part un hôtelier contacté sur place, qui attribue cela au fait que l'activité des humanitaires dans la zone est presque aux arrêts. Des prestataires de soins rapportent que depuis la prise de Bukavu, des structures sanitaires dans la zone ne sont plus approvisionnées au même titre que les officines pharmaceutiques qui peinent à trouver des médicaments appropriés. Des cas de malnutrition sont rapportés dans plusieurs ménages, ajoutent les défenseurs des droits humains contactés. Malgré ces contextes, regrettent les défenseurs des droits humains, les habitants sont asphyxiés par des taxes exigées à tout bout de champ. Il s'agit entre autres des postes et des péages et ou barrières payantes érigées un peu partout par des hommes porteurs d'armes qui exigent des sommes exorbitantes à chaque passager. Des habitants de la place plaident pour un retour rapide de la paix sur l'ensemble de la province afin de permettre la reprise normale du trafic et d'autres activités qui assuraient la survie des populations autant à Baraka et entités environnantes que dans d'autres zones du Sud Kivu.
Et la campagne de vaccination contre le choléra a été officiellement lancée mardi 24 juin dans la zone des santé d'Ouvira. La cérémonie s'est déroulée au centre de traitement du choléra, l'hôpital général des références d'Ouvira, sous la présidence du maire de la ville d'Ouvira d'intérim, Kapenda Kifara Kiki, en présence de plusieurs personnalités locales et partenaires de la santé. Selon le docteur Joseph Matoumania, médecin coordinateur du programme élargi des vaccinations dans la province du Sud Kivu, la zone de santé d'Ouvira a enregistré 715 cas de choléra, dont 6 décès depuis le mois de mars dernier. Il précise qu'il s'agit de la première épidémie de cette ampleur dans la région. Toutefois, il rassure que plusieurs efforts de riposte ont déjà été entrepris pour limiter la propagation de la maladie. Cette campagne de vaccination va durer 5 jours et cible les populations les plus exposées. Et le corps sans vie d'une dame d'une vingtaine d'années a été découvert à Tchandam, non loin du quartier Kitemba dans la ville de Kamituga. Le corps présentait des signes de viol et d'étranglement. La dépouille a été amenée à l'hôpital général des références de Kamituga. Les enquêtes sont en cours pour découvrir les auteurs de cet acte ignoble, précise des sources sur place. Vous suivez Radio Maïndélé dans quelques instants, la suite de ce radio-journal.
Suivez Radio Maïndéléo en direct partout dans le monde sur www.radiomaïndéléo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maïndéléo. Radio Maïndéléo, c'est vous.
Parlons éducation à présent. Les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP 2025 se dérouleront du mardi 1er au mercredi 2 juillet prochain sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite à travers un communiqué officiel de l'inspection principale provinciale de l'éducation au Sud Kivu adressé aux chefs d'établissement des écoles primaires et à leurs candidats finalistes. Dans ce document rendu public, l'inspecteur principal adjoint chargé de l'équivalence et des titres scolaires, Thierry Guereza Nabuchi Chantal, apporte plusieurs précisions importantes relatives au déroulement de ces épreuves. Les centres d'examen seront ouverts dès le dimanche 29 juin 2025. Le lendemain, lundi 30 juin, une réunion des chefs de centre avec les surveillants sera organisée à 9h, puis suivra l'aménagement des salles d'examen. Cette étape préparatoire concernera tous les centres retenus pour cette session, dont la province éducationnelle Sud Kivu 1, lit-on dans ce document. Les épreuves elles-mêmes débuteront le mardi 1er juillet à partir des 9h avec le français et la culture générale. Elles se poursuivront le lendemain, mercredi 2 juillet, avec les épreuves de mathématiques et des sciences. Ainsi, chaque candidat est invité à se présenter à son centre le mardi à partir de 7h30, muni de sa carte d'élève et d'un stylo bleu ou noir. Le port de l'uniforme bleu-blanc est aussi obligatoire, indique Thierry Guereza Nabuchi Chantal. Concernant le volet logistique, les questionnaires pour ces épreuves sont déjà arrivés dans la ville de Bukavu, ajoute le document. Leur déploiement vers les différents centres d'examen interviendra dans les tout prochains jours, conclut notre source. La saison sèche apporte un léger soulagement pour les populations du territoire de Mwenga. Avec l'amélioration des conditions de circulation sur les routes autrefois difficilement praticables, les marchandises commencent à arriver plus facilement dans les différents centres de négoce. Conséquence directe, les prix qui avaient fortement grimpé, moi amorce une baisse progressive. Jean Nondo Mukambi, notre correspondant à Mwenga, nous en dit plus.
Les activités commerciales au bénéfice des consommateurs commencent à devenir petit à petit favorables sur l'ensemble du territoire de Mwenga et ville de Kabituga. Cela fait suite à ce début de la saison sèche qui rend praticable la route nationale numéro 2 tronçon Bukavu Mwenga Kabituga Kitutu. Quelques semaines avant le début de cette saison, la vie socio-économique de paisibles citoyens était en difficulté majeure du fait que tout produit de commercialisation était revu à la hausse en triple et quatriple et quintuple. À titre d'exemple, à Kabituga, une tuche de savon Golden Key qui coûtait 9 000 francs congolais coûte aujourd'hui 5 000 francs congolais, un gobelet des haricots qui coûtait 8 000 et 9 000 francs congolais revient à 2 500 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg qui coûtait 167 000 francs congolais coûte aujourd'hui 100 000 francs congolais. Une bouteille de prémisse qui coûtait 22 000 francs congolais revient à ces jours à 14 000 francs congolais et d'autres produits de première nécessité qui ont baissé de prix partout dans les territoires de Menga et ville de Kabituga. De Kabituga, Janundu, pour Radio Mendeleo.
Et la jeunesse du Sud qui veut appeler à militer pour la paix partout où elle se trouve en s'inspirant du courage, de la détermination et l'engagement de Michael Sharp et Zaïda Catalan, deux experts des Nations Unies tués en RDC en mars 2017. Le message est de la Fondation Michael Sharp fourmis son sigle dont le lancement officiel est intervenu mercredi au cours d'une cérémonie organisée à l'église Alephar située sur avenue de la Poste dans la commune d'Ibanda à Bukavu. Détail Omer Moudekereza.
Les coordonnateurs de cette fondation, Moïse Boutimbouchi, ont dit que l'initiative a été prise dans le souci d'immortaliser les œuvres de Michael Sharp, qui a consacré un bon moment de sa vie pour les efforts de pacification en République démocratique du Congo en général, et au Sud Kivu en particulier. En référence à ces efforts de Michael Sharp, Moïse Boutimbouchi estime qu'en cette période de crise dans l'Est du pays, les communautés devraient privilégier la cohésion sociale et la paix, en cultivant entre elles l'unité et l'amour. On l'écoute.
Eh bien, comme humain, comme tout Africain, comme chrétien, les moments ou les années que j'ai passées avec Michael Sharp, je me suis dit que ça ne pouvait pas passer inaperçu. En fait, il est mort, nous tous mourons, mais il faut qu'il y ait quand même quelques signes de souvenirs. Parce que comme un artisan de la paix, on dit toujours un artisan de la paix ne meurt pas, il est toujours vivant dans ses œuvres, dans ses actions. Au lieu d'organiser chaque année pour son anniversaire, que je puisse créer une fondation qui va quand même immortaliser son nom, sa vision, ses objectifs et ses actions. Consolidons-nous pour la paix, essayons quand même de chercher la paix là où il n'y en a pas encore, et la réconciliation est toujours une force capitale.
À l'occasion du lancement de cette fondation, différents intervenants ont témoigné du travail réalisé par ces deux experts des Nations Unies de leur vivant. Pour le pasteur Boulambo Lembelembe Josué, leader principal de l'initiative chrétienne pour la paix, la réconciliation et le développement, aussi membre du groupe d'amis de Michael Sharp et Zaïda Catalan en RDC, ces deux personnalités sont une source d'inspiration. Ayant vécu avec eux, le pasteur Boulambo Lembelembe parle des qualités telles que le courage, la discipline dans le travail, l'humilité et l'amour de la patrie qui devraient caractériser le jeune Congolais, surtout en cette période. Il en parle.
Il a donné sa vie pour les Congolais, alors qu'il n'était pas Congolais. Il est venu ici pour servir les Congolais, pour aider les Congolais à sortir de la profonde crise. Il était choqué par les problèmes des Congolais, la pauvreté, les violences, les graves violations des droits de l'homme. Il était choqué par cela. Il suivait cela des États-Unis. Que la jeunesse suive l'exemple de cet homme-là. Nous devons aimer notre pays. Nous devons parfois prendre les risques de nous donner, de sacrifier notre propre vie pour que le pays puisse sortir de la crise. Vous voyez ce que nous sommes en train de connaître dans notre pays. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont précédé cette jeunesse, ils mettent le pays à genoux parce qu'ils sont assoiffés du pouvoir. Ils veulent le budget, l'or et l'argent du pays. Il ne se soucie pas de la population. Mais que cette jeunesse ne suive pas l'exemple des politiciens congolais. Que la jeunesse suive l'exemple de Michael Sharp, qui, lui, a accepté de quitter chez lui et de venir dans notre pays pour, n'est-ce pas, aider les Congolais à retrouver la paix.
Rappelons que ces deux experts onisiens, Michael Sharp et Zaïda Catalan, étaient assassinés au Kasaï en RDC le 12 mars 2017, aux côtés de leurs interprètes congolais et des chauffeurs de moto qui les accompagnaient. À l'occasion du lancement de la fondation Michael Sharp, les participants à cette cérémonie ont réitéré le vœu de voir la justice approfondir les recherches, relancer les poursuites contre les vrais auteurs de ces assassinats et les punir conformément à la loi.
Et discuter avec les journalistes de Bukavu sur le travail que mène le Comité international de la Croix-Rouge CICR dans la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits armés. C'est le but d'un briefing de presse organisé par le CICR mercredi 25 juin 2025. À cette occasion, les journalistes ont été informés sur la réponse du CICR, que ce soit dans la prévention, la protection et le soutien qu'il apporte aux victimes des violences sexuelles en temps de conflit. Pour Jean Mukengere, spécialiste des questions liées aux violences sexuelles, sexuelle au CICR. Les cas des violences sexuelles liées au conflit se multiplient du jour au lendemain en province suite au contexte actuel, d'où l'importance d'en parler. Il était également question de communiquer les principes éthiques concernant les reportages sur les violences sexuelles pour ainsi contribuer à la lutte contre la stigmatisation des victimes des violences sexuelles, ajoute Jean Mukengere.
On a voulu à ce que les professionnels des médias, les journalistes de Bukavu comprennent d'abord ce que le CICR fait dans la lutte contre les violences sexuelles et surtout avoir des informations suffisantes afin de pouvoir communiquer sur la violence sexuelle en tant que professionnel des médias. Vous savez qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur les violences sexuelles et vous avez des informations sur ce que font les autres acteurs, surtout les acteurs humanitaires, mais il était aussi important que vous sachiez ou que les professionnels des médias sachent également ce que le CICR fait, étant donné que le CICR a un mandat particulier qui est celui de traiter les questions sur les violences sexuelles pendant les conflits armés et les autres situations de violence.
Les spécialistes des questions liées aux violences sexuelles au CICR pensent que la sensibilisation du public sur cette problématique peut contribuer à la protection des victimes. Et les jeunes femmes et filles membres de la génération épanouie SBEL de la ville de Bukavu bénéficient depuis mercredi 25 juin des informations sur la gestion, la transformation et la résolution des conflits. Pendant deux jours, les participants vont être formés sur différentes matières susceptibles de leur permettre de contribuer efficacement au processus de consolidation de la paix dans leur communauté respective, explique Edouard Nganiza, membre de la structure Génération pour la paix et facilitateur du jour. Il est également question d'amener les participants à apporter leur contribution au développement et l'émergence des structures auxquelles ils appartiennent. Pour y arriver, les participantes devraient savoir définir un conflit, son origine, ses avantages et comment parvenir à sa gestion et sa transformation, comme l'explique ici Edouard Nganiza.
Nous avions organisé cela dans l'objectif de former et de renforcer les capacités des jeunes femmes pour leur permettre de participer au processus de la consolidation de la paix, ainsi que leur participation et contribution aux différentes instances de prise de décision dans nos différentes communautés, et aussi de pouvoir contribuer au changement et au développement de leurs différentes structures auxquelles elles font partie. Ça fait des décennies que nous traversons des conflits qui sont persistants dans notre région, dans notre communauté, et nous avions vu qu'en renforçant les différentes capacités, ça va permettre, tant soit peu, que les jeunes femmes soient à mesure de gérer, de transformer aussi les conflits qui sont persistants ici dans notre communauté pour avancer d'une manière ou d'une autre.
Pour rappel, cet atelier de formation de deux jours est la troisième session après deux autres déjà organisées. Ces sessions s'inscrivent dans le cadre du projet Rositian en Amman exécuté avec l'appui financier de Kivina Til Kivina. À présent, nous parlons sport.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maedeleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Or, à présent, alors que les éliminatoires semblaient actées, c'est une surprise qui relance deux clubs de l'Est. En effet, le FC Étoile du Kivu de Bukavu et l'US Okozaki de Butembo au Nord Kivu, pourtant éliminés respectivement à l'étape de 8e et de 16e des finales par l'AS Nyuki, obtiennent in extremis leur billet pour les quarts de finale de la Coupe du Congo de football 2025. La Fédération Congolaise de football, l'association FECOFA, a en effet confirmé que les deux clubs bénéficiaient d'un repêchage parmi les meilleurs perdants, permettant à la région du Kivu d'aligner pas moins des trois représentants dans le dernier carré aux côtés de l'AS Nyuki. Ainsi donc, pour la zone Est, les équipes qualifiées sont les suivantes: l'AS Nyuki, l'US Okozaki et le S Étoile du Kivu. Pour la zone centre-sud, c'est les FC Jex Kol de Kolwezi, Aisimba de Kolwezi, Wadile Mfumu de Likasi. Pour la zone ouest, c'est les FC MK de Kinshasa et l'AC Rangers de Kinshasa. Par ici prend fin ce radio-journal. Jean-Claude Ndagué a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation Expédie Kialou. Passez des beaux moments en compagnie de Radio Mandeléo. Au revoir.